Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai bouleversement du marché traditionnel de la cosmétique et que donc il y avait quelque chose à faire. Là, ce qui m'a beaucoup attirée dans cette agence et le métier que je fais aujourd'hui, c'est ma capacité à être complètement libre sur la création.
Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est simplifier le process et améliorer la lisibilité justement de ce process de création et de lancement de marque. Et je l'ai fait en trois étapes. Donc les trois étapes, c'est création, développement, lancement sur le marché. C'est pas parce qu'il y a un concurrent qui a exactement la même idée que vous que votre marque, elle est à jeter à la poubelle. Le vol océan bleu, c'est vraiment de capter ce qui se fait tout, en apportant sa différence et son petit upgrade. Pour pouvoir capter un marché qui est quand même présent sans vous faire attaquer par les très très gros qui ont déjà fait la même chose. Si on a cette mission en nous, si c'est écrit dans notre ADN qu'il faut qu'on se lance parce qu'on a quelque chose à apporter au monde, quoi qu'il arrive, même les échecs, même tout type d'expériences qui peuvent être déstabilisantes, elles font partie du chemin de la réussite.
Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent.
Faire de son expérience professionnelle un atout pour créer sa propre agence de conseil, c'est ce qu'a fait mon invitée du jour, Léa Clément, experte dans la cosmétique. Après de longues années accompagnée de grandes marques comme Chanel ou LVMH et des PME, Léa constate que les porteurs de projets cosmétiques se diversifient. Enseignes de course et de mode comme Monoprix, hôtels, marques de textiles, des acteurs dont ce n'est pas le métier décident de lancer leur propre marque de beauté. Une occasion pour Léa de proposer ses services en tant qu'indépendante avec son agence pour venir en aide à ses sociétés, mais aussi aux petits porteurs de projets cosmétiques pour les aider à faire les bons choix, car créer sa marque de beauté ne s'improvise pas. Au contraire, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Dans cette interview, vous allez apprendre comment Léa a décidé de mettre à profit son expertise et son réseau pour ses nouveaux acteurs de la beauté et comment elle a créé chez Léa Beauty Planner, la première agence de création de marques cosmétiques 360. Léa donne aussi des conseils précieux pour toutes celles qui sont en pleine réflexion de lancement de marques de cosmétiques. Avant de laisser place à Léa, merci de prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. Cela m'aide énormément et permet de mettre en lumière ces femmes au parcours unique. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute.
Bonjour Léa.
Bonjour Fatima.
Je suis enchantée de te recevoir aujourd'hui sur le podcast.
Enchantée.
Merci beaucoup. Alors tu es beauty planner, pardon. Tu as un long parcours dans le domaine de la beauté qui t'a amené il y a à peu près 2 ans à lancer chez Léa Beauty Planner. C'est une agence de création de marques de cosmétiques.
Tout à fait.
Et avant de parler de tout ça, j'aimerais beaucoup en savoir un peu plus justement sur ton parcours dans le domaine de la cosmétique. Comment tu y es arrivée? Qu'est-ce qui te plaisait dans ce parcours-là? Qu'est-ce qui te plaît toujours d'ailleurs dans ce parcours-là dans lequel... tu es restée quand même 15 ans dans le domaine.
Oui. Bonjour, enchantée Fatima. Effectivement, donc moi j'ai 15 ans d'expérience dans l'industrie cosmétique, donc je m'appelle Léa Clément. Et ce qui a constitué le moteur de mon parcours professionnel depuis toute jeune, c'est vraiment cette mission de créer la beauté, la planification des projets aussi que j'aime beaucoup, et la valorisation du patrimoine français. Donc l'industrie cosmétique est, on le sait, un fleuron en France et à l'international. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur, une industrie que j'ai voulu rejoindre assez jeune. Au niveau de mon parcours, donc j'ai travaillé dans des grands groupes. J'ai travaillé chez Chanel, chez LVMH, chez Estée Lauder. Et j'ai également travaillé pour des plus petites structures, des PME, des portefeuilles de clients qui venaient me voir pour que je leur développe leur gamme cosmétique, mais qui n'avaient pas de lien avec l'industrie et qui, du coup, venaient faire appel à mon expertise du métier pour leur développer leur ligne de soins, leur ligne de parfum ou leur ligne de maquillage. Et donc, après plusieurs années, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai bouleversement du marché traditionnel de la cosmétique. Et que donc, il y avait quelque chose à faire, parce qu'il y avait vraiment ces nouveaux acteurs de la cosmétique à accompagner pour leur permettre de mener à bien leurs projets sachant qu'ils souvent ils ne viennent pas du coup donc de l'industrie traditionnelle. Donc voilà comment l'agence Beauty Planner est née. C'est une agence qui s'est créée sur la base de voilà de ce constat d'un nouveau marché, de nouveaux acteurs de la cosmétique.
D'accord, parce que j'allais te poser justement la question sur ces 15 années d'expérience dans le domaine de dans l'industrie de la cosmétique. Qu'est-ce que tu as pu constater justement sur le marché? Comment il a évolué? On voit aussi beaucoup de marques green qui dernièrement naissent de plus en plus. Et effectivement, comme tu disais, oui, il y a de plus en plus donc, de petites entreprises ou des créatrices qui lancent leur marque et qui ne connaissent pas forcément le secteur. Et toi, tu as détecté justement ce besoin-là d'être accompagnée sur cela.
Oui, voilà, exactement. En fait, quand j'ai démarré, moi, il y a 15 ans, j'ai démarré dans les grands groupes de cosmétiques. Il y avait vraiment des codes de l'industrie avec voilà, des marques qu'on connaît tous, hein, des grandes marques traditionnelles qui font le paysage cosmétique français. Au fur et à mesure des années, il y a une vraie évolution qui s'est mise en route parce qu'on a vu, on a commencé à voir donc effectivement ce qu'on appelle les marques blanches, les marques de distributeurs se développer. Donc par exemple, les enseignes de distribution se sont mis à créer leur propre marque à leur marque. Donc, quand on va chez Monoprix, on va trouver une ligne de soins de la marque Monoprix. Même si elle va lui donner un autre nom, chaque enseigne de distribution a commencé à créer sa propre marque, donc ce qui a commencé à concurrencer les marques traditionnelles. En parallèle, on a vu émerger beaucoup aussi donc d'acteurs qui n'ont pas de lien direct avec l'industrie. Alors moi, j'ai travaillé pour des hôtels, j'ai travaillé pour des salles de sport, des enseignes de textile, vraiment des acteurs très, très variés, des influenceurs qui ont décidé de faire leur propre ligne. Alors, à leur image, donc effectivement, les hôtels, moi j'avais travaillé pour le Bristol où j'avais fait son parfum Home Fragrance. Par exemple, les enseignes de textile comme Etam, j'avais fait la gamme de soins pour Natalis, qui est l'enseigne pour maman et bébé. Bref, on avait Point Soleil qui est les cabines UV. Donc pareil, on leur avait fait une gamme de soins dédiée, spécifique, Point Soleil. Donc on a vraiment vu que d'un coup, le marché, les entreprises, le marché changeait. Les entreprises se mettaient à créer leur propre marque. Et de ça, une nouvelle évolution qui est arrivée, notamment avec l'avènement de la Startup Nation et tout ce qu'on sait aujourd'hui qui est en train d'émerger en France. En référence aux États-Unis, c'est effectivement les entreprises qui naissent de toutes parts et qui arrivent avec des projets très intéressants et qui sont aidées aujourd'hui par toutes les structures qu'on connaît en France, mais qui n'ont pas justement cette expertise de l'industrie et qui du coup font appel à moi notamment pour que je les accompagne sur le développement de leurs projets. Voilà, voilà.
D'accord, oui, parce que j'ai vu que c'était aussi un job qui émergeait de plus en plus. Et justement, je pense que c'est aussi qu'il y a un vrai besoin sur le secteur d'accompagnement des entreprises ou des créatrices dans le domaine de la cosmétique qui connaissent pas très bien le secteur, qui ont besoin justement de professionnels comme toi pour pouvoir lancer leur marque, parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. Mais justement, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à quitter ton job et à te lancer là-dessus? Et pourquoi pas, justement, la création d'une marque de cosmétiques?
Moi, ce qui m'a poussé à quitter le monde de l'entreprise traditionnelle pour m'orienter sur la construction de cette agence et l'accompagnement de ces startups, notamment, ou autre entreprise, d'ailleurs, parce que ce ne sont pas que des startups, mais des entreprises qui... sont un peu différents de ce qu'on connaît traditionnellement. C'est l'envie justement de transmettre mon savoir. Alors je pense que je suis fille de prof aussi, hein, donc il y a peut-être cette chose-là qui vient de mon origine familiale.
L'envie de transmettre.
Une envie de transmettre certainement un savoir, mais également, donc là ça fait aussi référence à l'autre partie de ma famille qui est dans l'architecture et l'art. c'est la création du beau. C'est vrai que quand on est dans une entreprise avec des codes, quelque chose qui est plutôt charté, c'est compliqué d'être dans la création vraiment from scratch, totale. On est quand même face à des chartes. Là, ce qui m'a beaucoup attirée dans cette agence et le métier que je fais aujourd'hui, c'est ma capacité à être complètement libre sur la création et pouvoir sortir de terre vraiment quelque chose qui m'appartient ou alors qui appartient au porteur de projet. Et donc, vraiment pouvoir créer cette beauté qui vient du fin fond de mon intuition ou de celle du porteur de projet. Et effectivement, j'ai pour projet de créer une marque de cosmétiques. Alors ça, c'est un projet qui est un peu plus, on va dire long terme, dans le sens où je souhaite initialement d'abord poser bien les bases de la société, de l'agence, pour ensuite m'orienter sur le lancement de cette marque.
D'accord, très bien. Donc du coup, ça veut dire qu'en plus d'accompagner les entreprises dans la création de leur marque de cosmétiques, tu penses toi aussi donc créer la tienne prochainement?
Oui, voilà, tout à fait. C'est un projet sur lequel on travaille. Donc on est plusieurs à réfléchir dessus. C'est vrai que ce que j'expliquais, c'est vraiment le fait de faire les choses dans l'ordre, on va dire. Cette agence, moi, j'y tiens beaucoup parce que je pense qu'il y a vraiment un manque en France d'accompagnement pour aider les porteurs de projets en cosmétique ou les entreprises qui ne sont pas de l'industrie traditionnelle. Donc, je tiens à développer cette agence et cette activité. Mais en parallèle, j'ai à cœur de lancer la marque aussi qui sera à 100% la mienne cette fois-ci. Donc c'est un projet qui est, je ne peux pas vous donner de date, mais qui est en cours en tout cas.
D'accord, très bien. Justement, quand tu as créé donc l'agence, est-ce que tu peux nous dire, pardon, de quelle manière tu accompagnes les porteurs de projets? J'ai vu que tu avais mis en place 3 étapes, création, développement, lancement. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai mis en place 3 étapes d'accompagnement que tu viens de citer. Donc, la première étape, effectivement, c'est la partie création. Donc, j'ai essayé de rendre les choses lisibles, hein, parce que c'est vrai que quand on souhaite lancer une marque cosmétique ou une ligne de soins ou de parfums ou de maquillage, et qu'on n'a pas la connaissance du fonctionnement de des process, on se dit c'est une montagne à gravir, ça va être compliqué, comment faire. En plus, c'est vrai que l'accès au marché n'est pas évident, puisque bon, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas de réseau, ça peut être assez compliqué. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de simplifier la lisibilité, simplifier le process et améliorer la lisibilité de ce process de création et de lancement de marque. Et je l'ai fait en 3 étapes. Donc la première partie, c'est vraiment un accompagnement sur la création de la marque en lien avec les fondations de cette marque. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients potentiels qui viennent me voir pour faire de la formulation, mais ils sont pas passés par la phase 1, qui est pour moi fondamentale. C'est vraiment quelle est votre stratégie de marque, quels sont vos piliers de marque, votre mission. En fait, c'est vrai que on parle souvent du why de Simon Sinek, qui est de créer quelque chose qui réponde vraiment à une mission de vie, à une raison en fait bien plus profonde que juste des caractéristiques techniques. Pourquoi vous lancez cette marque? Quelle va être la mission de cette marque? Donc vraiment, voilà, la première étape, c'est définir vos fondations de marque. J'ai coutume de dire que c'est comme les fondations d'une maison avant d'établir les étages supérieurs. Avant de passer à la formulation, faut poser les fondations de la marque, quelle est la stratégie, l'ADN, les piliers, votre why, pour ensuite passer à vraiment la création de votre gamme, combien de produits, quel packaging, quelle formule, etc. Donc ça, c'est la première étape. On définit la stratégie de la marque, on définit la composition de la gamme, les spécificités pack et formule, et ensuite, on dresse ce qu'on appelle un cahier des charges pour les différents partenaires qui vont rentrer dans le processus de développement du produit. Donc là, effectivement, on part en étape 2. Donc l'étape 2, du coup, c'est le développement de vos produits. Donc par exemple, on est vraiment sur la formulation de vos formules, le sourcing des packaging, la mise en place de votre identité graphique et de vos designs de packaging. Toute la partie aussi aspect réglementaire, test toxicologique, toute la production jusqu'à la livraison en entrepôt. Donc ça, c'est la phase 2. Et la dernière étape, c'est vraiment qui est une étape qui est évidemment fondamentale parce que c'est celle qui va vous permettre d'atteindre votre client final, c'est le lancement sur le marché. Donc là, il y a plusieurs pareilles stratégies à mettre en place. Il y a donc tout ce qui est stratégie de communication via la création de votre site internet, la ligne éditoriale de vos réseaux sociaux, la mise en place toute la communication, que ça soit physique, online ou offline. Ensuite, il y a la stratégie d'acquisition, c'est-à-dire faire des actions qui vont vous permettre de vous faire connaître. Certes, mais aussi de récupérer des adresses mail pour créer des bases de données d'email et ensuite pouvoir, sur cette base-là, communiquer à cette communauté via des campagnes d'emailing, des offres promotionnelles, etc. Donc la stratégie d'acquisition et la stratégie média et RP, donc pour vous permettre d'avoir une couverture médiatique, parce que ce qui est vrai, c'est que lancer un produit, si vous n'avez pas de couverture médiatique, vous allez réduire votre champ de oui. Voilà, pour obtenir vos clients.
De visibilité.
Quoi. Exactement. Donc, la couverture médiatique, donc là, ça passe par l'élaboration d'un dossier de presse, l'envoi à une base de données de toute la presse nationale cosmétique, la partie aussi influence, donc avec toute une stratégie influenceur qu'on met en place avec un de mes partenaires. Jusqu'à le clou du spectacle qui est la distribution de votre marque. Ensuite, ça, c'est un choix. Soit on est sur du e-shop, soit on est d'autres points de vente, distributeurs divers et variés. Voilà. Donc, les trois étapes, c'est création, développement, lancement sur le marché.
D'accord, oui, c'est vraiment un accompagnement de A à Z sur la création de sa
voilà,
marque.
Voilà, exactement.
Cosmétique. Tout à fait. Vraiment, comme tu disais, les fondations et ensuite la création du produit et sa promotion.
Voilà, tout à fait.
J'ai vu que, avant de parler de ça, je voulais savoir justement c'est quoi, quand on lance sa marque de cosmétique, concrètement, c'est quoi les erreurs à ne pas faire ?
Les erreurs à ne pas faire. Alors, c'est l'erreur dont je viens de vous parler. Pour moi, la première erreur que je vois de manière très récurrente, c'est de passer en formulation avant même d'avoir, posé sur le papier quelle était votre mission de marque, quel sens, en fait, cette marque allait apporter au monde. Parce que créer une nouvelle formule, c'est vraiment ce qu'on appelle, j'appelle de la caractéristique technique. Mais on a beaucoup de très belles formules qui existent aujourd'hui sur le marché et elles ne se vendent pas, en fait. Elles ne se vendent pas parce que derrière, on n'a pas d'histoire, on n'a pas le côté émotionnel qui est associé, on n'a pas l'aspirationnel. Et ce qui est très important, c'est de créer une espèce d'identité globale autour. Votre formule, elle répond à toute une histoire, en fait. Quand on rentre chez Chanel, on va chez Chanel parce qu'on pénètre dans un univers. On va acheter une montre Chanel, pas parce que c'est peut-être la plus techniquement au point, mais parce qu'elle va évoquer beaucoup de choses à la personne qui va porter cette montre et qui va se dire j'ai un petit bout de Chanel en moi, donc j'ai un petit bout de cette histoire. Et c'est ça qu'il faut vraiment considérer quand on veut lancer quelque chose, c'est qu'on crée son univers, on crée son histoire. Pour apporter du sens, en fait. Apporter du sens. Et la formule, elle est au service de votre histoire. Donc, voilà. Ça, c'est l'erreur la plus fréquente que je vois des gens qui viennent me voir. Je suis en formulation. J'ai besoin de formuler. Ils n'ont
pas posé les fondations.
Voilà, ils n'ont pas fait l'étape 1. Donc, ça, c'est la première erreur que je vois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme erreur? Alors, les autres erreurs, c'est évidemment de ne pas faire tout ce qui est la partie test, qui est importante. Parce que c'est vrai qu'on peut aujourd'hui, ce qu'on appelle, faire des développements en test masqué. Ça veut dire qu'en gros, on se dit, bon, a priori, la formule, c'est une formule qui est sur des bases d'ingrédients qu'on connaît. Le packaging, ce sont des matériaux qui sont connus. Donc, la compatibilité entre le pack et la formule, ça va aller. Je lance ma production et puis je fais les tests en masqué. Et puis, parfois, on se rend compte que on a fini la production et au bout de 2 mois de tests, on a un problème de, par exemple, de restitution de la formule dans la pompe. La pompe, elle se bloque parce que la galénique, elle est trop épaisse, ou, enfin, elle n'est pas adaptée à l'orifice. Enfin, on peut avoir toutes sortes de problèmes qui peuvent nous arriver de nulle part si on a voulu aller trop vite et ne pas faire les phases de test qui sont, à mon sens, importantes pour éviter les mauvaises surprises quand on est sur la partie production, ouais. Qu'on a tout payé, qu'on a tout lancé, parce qu'après, il n'y a plus qu'à mettre à la poubelle, quoi. Donc, c'est assez important de bien s'assurer de pas... Il y a des délais incompressibles. C'est vrai que beaucoup de marques aussi souhaitent aller vite parce qu'il y a des impératifs financiers, etc. Mais il y a des choses qui sont incompressibles. On est vraiment obligé, ou alors du moins, il faut éviter de raccourcir ces temps-là de test.
Oui, puis il vaut mieux prendre le temps de faire ces tests-là parce que au final, s'il y a un souci, ça nous coûtera peut-être plus cher.
Exactement.
Et en financièrement et en termes de temps, parce qu'il faut revenir en arrière.
Exactement, exactement. Aller plus vite que la musique, ça sert à rien. Il vaut mieux prendre un tout petit peu plus de temps, mais s'assurer que tout est bon. Et puis ensuite avancer comme il faut, au bon rythme, pour que la marque, elle soit. Même si, alors c'est vrai qu'il y a des marques parfois qui viennent nous voir et disent oui, mais vous comprenez, j'ai vu qu'un concurrent vient de se lancer sur le même credo que moi. Je faut absolument que je lance au plus vite parce que sinon on va croire que mon idée n'était qu'une copie de l'autre. Enfin, non, parce qu'en fait, pareil, ça aussi c'est souvent une remarque que je leur explique, enfin que je leur fais, c'est pas parce qu'il y a un concurrent qui a exactement la même idée que vous que votre marque elle est à jeter à la poubelle. C'est au contraire, ça signifie qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande et il y a de la place pour tout le monde. C'est pas un souci. Vous aurez votre propre identité, vous aurez votre propre différenciation. C'est pas parce que sur votre technologie ou concept vous êtes proche d'un autre que forcément c'est plus la peine de lancer. Non, ça veut dire qu'il y a du besoin, ça veut dire qu'il y a de la demande, ça veut dire que c'est une tendance que certains ont capté en fait. Donc c'est que vous avez bien capté l'ambiance générale de la société actuelle et que vous avez lancé le bon concept. Et donc ça c'est ça veut dire ce qu'on appelle un business potential. Ça veut dire que il y a du monde et il y a encore de la place à prendre. C'est du potentiel business, quoi. Voilà.
Oui, et ce qui ferait la différence, c'est ce que tu disais au départ, c'est vraiment de travailler son branding, son histoire, son identité de marque.
Voilà.
Parce qu'après tout, des crèmes de jour sur le marché, il y en a plein, mais ce qui les différencie toutes, c'est vraiment l'histoire qu'ils ont su raconter, que chaque marque a réussi en tout cas à raconter, qui fait qu'elle a trouvé son public.
Après. Exactement, exactement. Mmh.
Et puis c'est aussi, je pense, important de travailler aussi justement sa communauté avant même de lancer sa marque. Parce que pour avoir déjà les premiers early adopteurs, on va dire, qui seront prêts à acheter le produit parce qu'ils l'auront attendu, ils auront suivi cette histoire qu'on leur a racontée et avec tous les conseils qu'on aurait pu leur donner. Et du coup, ça fait tout de suite donc, les premiers testeurs, les premiers early adopteurs.
Tout à fait. Donc ça, c'est effectivement dans la phase de lancement qu'on attaque en parallèle de la phase 2, la phase de développement. La phase de lancement, en fait, moi, j'accompagne aussi sur des campagnes de crowdfunding. Donc, les campagnes de crowdfunding, vous savez, c'est les campagnes de financement participatif. Et on dit généralement qu'il faut environ 6 mois de préparation de cette campagne en amont. Et effectivement, les 6 mois de préparation, ça passe par la création de sa communauté via la création de ses réseaux sociaux. Et donc, pour faire cette étape 3, il aura fallu faire l'étape 1, mais ça peut être en parallèle de l'étape 2. Et donc, une fois quand on est en développement des produits, on commence effectivement à créer son Instagram, créer sa ligne éditoriale, faire ses briefs de tout ce qui est support de communication pour commencer à créer un univers. Et donc, du coup, effectivement, la communauté, on la fait grandir au fur et à mesure. On fait éventuellement des opérations influence médias en parallèle aussi pour créer un peu le buzz. Mais au début, c'est vraiment du teasing. On n'a pas le produit à proposer. Le produit, il faut garder un petit peu le mystère jusqu'au lancement. Si on est sur de la campagne de crowdfunding, jusqu'au lancement de la campagne. Et si on est sur un lancement de son e-shop, de la même manière, on peut commencer à faire monter la sauce et on envoie les premières images des produits, etc. Une fois que on a quelque chose à vendre très concrètement, en fait, qu'on a un e-shop disponible, qu'on a la production qui est disponible à l'entrepôt et qu'on peut aller pick up la marchandise et dispatch à la clientèle. Donc voilà, il faut préparer la communauté, mais il faut pas rester dans le teasing pour pouvoir faire le reveal de vos produits et de votre marque quand c'est concrètement disponible en vente, quoi.
Et justement, oui, parce que le marché de la cosmétique, c'est vraiment ce qu'on appelle l'océan rouge, hein. C'est qu'il y a énormément de marques qui se lancent presque chaque jour. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Comment on peut faire se démarquer pour trouver vraiment son positionnement, son public, et pour voir, surtout quand on est un porteur de projet, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans le domaine de cosmétique, mais pour pouvoir tout simplement justement vivre de sa marque?
Effectivement, on dit souvent que le marché cosmétique est un marché saturé et que c'est difficile de faire sa place avec les gros poissons. Donc tu parlais d'océan rouge, et c'est l'une des théories souvent que j'explique un peu aux clients, aux porteurs de projets. C'est que on a donc l'océan rouge où il y a tous les gros poissons. Effectivement, si on y va, on va se faire manger, hein, concrètement. Donc les gros poissons, c'est les grandes marques, c'est ceux qui ont des capitaux importants derrière et qui ont une force de frappe de communication qui est immense. Et du coup, nous, face à ça, si on est une petite start-up, en tout cas, on aura du mal à se faire une place. Après, il y a l'océan blanc. L'océan blanc, c'est par exemple des concepts de produits pour faire une différence XY où il n'y a personne. Donc, je ne sais pas, une innovation telle que personne n'y a pensé et que du coup, il n'y a personne dans cet océan-là. Donc, l'océan blanc, il ne faut pas y aller non plus. C'est-à-dire que s'il n'y a personne, c'est que concrètement, personne, forcément quelqu'un a eu une idée un peu similaire, et si personne n'y est allé, c'est qu'il y a des barrières à l'entrée, que c'est un marché qui peut être complexe, que technologiquement c'est pas au point, qu'il y a la rentabilité, elle va être compliquée. Enfin, bon, après, sauf si vous avez l'idée du siècle et que vous avez trouvé les moyens de les mettre en place d'une telle manière qui fait que ben, du coup vous êtes le first to market face à des gros poissons, etc. Ben là, je vous félicite, mais bon, la théorie, elle est comme ça. Donc, l'océan rouge, il ne faut pas y aller. L'océan blanc, il n'y a personne. Donc, généralement, il faut peut-être éviter. Et il reste un océan qu'on appelle l'océan bleu. Et c'est cet océan qu'il faut viser. C'est-à-dire, il y a des gros poissons, il y a des petits poissons, mais il reste de la place. C'est-à-dire qu'en fait, on ne part pas de quelque chose de complètement disruptif, de complètement innovant. On va partir sur des fondamentaux. Mais on va apporter un petit upgrade, on va apporter une différence. Et c'est là où tout le travail va se faire. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de plutôt classique sur les bases, mais on va apporter cette innovation. On va répondre à un pain point qu'on a identifié, donc un point de douleur consommateur, en se disant, ben voilà, par exemple, moi aussi, je fais du solide, du savon solide, comme unbottled, je vais le proposer avec une ventouse qu'on applique sur le mur de sa salle de bain. Parce que c'est vrai qu'on sait que la pointe douleur consommateur, c'est le savon qui glisse, c'est pas pratique. Donc nous, on vous le propose avec un système de ventouse. Voilà, donc c'est l'océan bleu, c'est vraiment de capter ce qui se fait en apportant sa différence et son petit upgrade pour pouvoir capter un marché qui est quand même présent sans vous faire attaquer par les très très gros qui ont déjà fait la même chose. Voilà.
Oui, d'accord. Donc c'est vraiment se jouer sur la petite différence, la petite chose différente, tout en ayant bien travaillé son identité de marque qui fait qu'on va sortir un petit peu du lot et puis, avoir trouvé son public.
Voilà, exactement. Exactement. Et donc c'est tout le travail qu'on fait, c'est effectivement de trouver ce qu'on appelle la USP, la uniqueness. Quelle est votre différence en fait, comment et ça passe par l'histoire, notamment le storytelling du porteur de projet ou de la marque. Ça passe par quelle va être la mission de la marque. Est-ce que c'est une mission qui s'arrête à vendre des produits, ou est-ce qu'elle a une mission sociétale, environnementale. Il y a toutes sortes de missions qu'aujourd'hui les marques portent, puisque on n'est plus dans des marques comme avant où on vend juste du produit. On est dans des marques qui ont quelque part cette mission, cet engagement, cette histoire à partager. C'est comme si on pénétrait un peu un univers, finalement, quand on achète une marque. Et c'est ça qu'il faut réussir à créer, en fait. Et ça, c'est propre à chaque histoire de chaque porteur de projet. Et c'est là où on va... Si on fait bien l'étape 1, généralement, la différence, on va la trouver de manière assez évidente. Si on a bien fait le travail en amont.
Justement, tu accompagnes des entreprises et des petits porteurs de projets. J'imagine que les budgets ne sont pas les mêmes. Grosso modo, j'imagine qu'il y a une fourchette de budget à avoir quand on veut se lancer dans la création de sa marque de cosmétiques.
Oui, tout à fait.
Si tu peux nous dire à peu près... pour un porteur de projet, une femme entrepreneur qui veut se lancer dans ce domaine-là, à quoi elle peut s'attendre financièrement, avec quel budget elle doit venir pour pouvoir lancer une marque, au moins, je ne sais pas, c'est pour un ou deux produits. D'ailleurs, généralement, est-ce que c'est mieux de proposer qu'un seul ou deux produits, parce que j'en ai vu qu'ils proposent un peu trop, je trouve, quand on vient de se lancer, c'est peut-être le truc à éviter, mais se concentrer sur un produit phare, peut-être, je ne sais pas quels sont tes conseils là-dessus, en termes financiers et en termes de nombre de produits à lancer.
Alors effectivement, c'est une question qui revient très fréquemment. Quel est le budget? Alors, c'est une réponse qui est tout aussi variable que la question. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez avoir des marques qui ont une envergure nationale. Auquel cas, moi, c'est plutôt ce genre de clients que j'ai, hein, des marques qui ont une envergure nationale. Mais vous pouvez avoir des marques qui sont des marques ce qu'on appelle artisanales, qui vont se vendre localement dans des petits points de vente, parce que c'est une zone touristique. Et donc, on est en Provence, on fait une marque à la lavande et puis on vend ça dans les points de vente en Provence. Voilà, donc c'est déjà de base. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce n'est pas les mêmes quantités. C'est-à-dire que si vous partez sur des quantités pour lancer une marque à envergure nationale, vous êtes sur une production, vous êtes sur des lignes de production, et les usines, elles ont des minimums de quantités pour lancer une ligne de production. J'arrive à lancer, moi, des marques avec des quantités qui sont autour de 2000 pièces, qui est très faible. Mais généralement, on dit qu'il faut commencer à 5000 pièces à la référence pour pouvoir lancer une marque en production industrielle. Hein. On n'entend pas en production artisanale. Artisanale, c'est fait main, c'est des petits artisans.
Ouais,
c'est pas la même chose. Donc, si on parle d'une marque à envergure nationale, on parle de production industrielle, et auquel cas, on a des minimums de quantité industrielle. Donc, si vous avez des minimums de quantité industrielle, vous avez forcément, de base, vous multipliez le coût de production par vos quantités et par le nombre de références que vous allez avoir. Donc, si vous avez 3 références, multipliées par 3, et ainsi de suite. Donc, moi, généralement, ce que je conseille, c'est effectivement de commencer moi, j'ai beaucoup de clients qui commencent de cette manière-là, sur autour de 5000 pièces, avec 3 produits. Et ensuite, en termes de... 5000 pièces, 3 produits. Et donc...
5000 pièces, 3 produits. Mais ces 3 produits, c'est 5000 pièces par produit.
Donc, ça vous fait 15 000. Ça vous fait 15 000 pièces que vous multipliez par votre coût de production. Et ça vous donne déjà, ça vous donne votre budget de prod. Mais on sait pertinemment que, comme je vous explique aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire juste un produit si vous n'avez pas construit votre marque autour. Donc, le plus gros budget qu'on estime autour de 70%, hein, comparé à, aux 30% sur la, ou 20% sur la production, c'est le marketing et la communication. Et c'est là où moi j'interviens. Bon, j'interviens aussi sur la partie développement produit, mais je ne suis pas formulatrice, hein, donc j'accompagne le porteur de projet ou l'entreprise avec les différents partenaires. Oui. Mais ce qui est très important, c'est voilà, de créer cette marque avec tout cet univers dont on a parlé. Et ça, ce seront des budgets qui seront plus conséquents. Donc, globalement, je dis qu'il faut un minimum de budget de 50 000 euros. Et idéalement, sur ce genre de taille de projet, je dirais 100 000 euros comme pour partir relativement sereinement, sachant qu'on peut aller jusqu'à 150 si vraiment on a des ambitions un peu plus hautes. Parce qu'on peut trouver tout type de prix, même en termes de partenaires. C'est-à-dire que vous avez des partenaires qui seront un peu low cost versus des stars du design, par exemple, qui vont facturer extrêmement cher. Ou de photographes pour la partie shooting de votre campagne. Enfin, ça va dépendre. On peut trouver toutes sortes de prix. Mais voilà, je dirais que si on veut, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, le réseau qu'on a, enfin, qu'on peut proposer... 50 à 100 000 euros, c'est l'idéal.
D'accord, minimum 50 000. Donc ça veut dire que dans les 50 000, le plus gros du budget ne sera pas forcément sur la partie développement, mais sur la partie communication. Et
exactement. C'est ça. Exactement. Après, ce que font beaucoup de startups, elles commencent en fait, elles n'ont pas forcément le budget, tout le budget d'un coup. Il y a beaucoup aujourd'hui de possibilités de financement qui existent. Notamment, bon, on connaît les prêts bancaires, mais prêts bancaires, c'est quand même, elles demandent généralement des garanties. C'est comme quand on fait un prêt bancaire pour une maison, hein, c'est pas du tout, voilà, c'est vraiment lié à votre situation personnelle. Et c'est pas forcément les premiers qu'il faut aller voir. Il existe beaucoup de façons de financer sa marque. Alors déjà la campagne de crowdfunding, hein, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on peut récupérer une partie de sa prod. Exactement. C'est plus de la communication que vraiment une solution de financement, mais tout de même, ça vous rapporte un peu d'argent. Vous avez tout ce qui est subvention, prêt d'honneur. Donc, il y a énormément de possibilités de faire financer une partie de sa marque par tout ce qui est subvention ou prêt d'honneur. Et ça, donc, c'est via la BPI France, c'est via votre région, il y a parfois des concours. Il y a énormément de choses qui existent. Donc c'est un peu, j'avoue, c'est un peu une usine à gaz à comprendre quand on ne connaît pas. Donc moi, pareil, j'aide aussi à clarifier sur cette partie financement pour les marques.
D'accord, très bien. Donc du coup, vraiment, tu accompagnes sur tous les points. Et donc, j'ai vu effectivement que tu as pas mal de partenaires, des laboratoires. Enfin, tu as tout un carnet d'adresses qui permet vraiment à la personne que tu accompagnes d'être prise en main du début jusqu'à la fin.
Oui. Justement, là, depuis début 2022, on a beaucoup de nouveaux partenariats, donc de nouveaux laboratoires. Donc, on est devenu partenaire avec KissKissBankBank, donc la plateforme de crowdfunding. Nouveaux partenariats aussi, presse et influence, donc justement pour vraiment la partie couverture médiatique, parce que je pense que c'est vraiment fondamental. Avec la Cosmetic Valley aussi, qui est l'organisation des entreprises de la beauté en France. Et on est partenaire notamment pour accompagner les startups qui sont startups de la beauté qui sont incubées au Beauty Hub à Chartres. Donc dernièrement, on a vu par exemple la Crème Libre qui était incubée au Beauty Hub ou Lao qui sont les marques de shampoing en bombe qu'elle vend sous forme de bombe là. Enfin, je connais pas très bien Lao, mais en tout cas, je sais qu'elle était incubée au Beauty Hub. Voilà, donc là, on a pas mal de nouveaux partenariats et c'est bien, ça se développe beaucoup.
C'est la question que j'allais te demander. Du coup, j'ai vu que tu avais tous ces partenariats, KissKissBankBank, la Cosmetic Valley. Tout ça, pour toi, justement, c'est vraiment une manière donc, d'aller chercher tes clients quoi, à la source, on va dire.
Alors oui, entre autres, ça peut me permettre de rencontrer des entreprises qui, notamment la Cosmetic Valley, qui ont besoin de cet accompagnement. Alors oui, c'est une façon pour moi de trouver des nouveaux clients. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui je manque pas de clients. J'en ai pas mal.
D'accord. Parce que je voulais savoir justement comment tu fais, justement quelle stratégie toi tu as mis en place pour faire connaître justement ton agence.
Alors moi j'ai une communication qui est pour l'instant assez peu offensive, on va dire. Alors, je suis quand même présente, hein, je suis présente sur les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai pas fait de publicité, par exemple. Parce que je...
Parce que tu avais déjà un réseau ?
Alors, j'ai déjà un réseau, donc j'ai trouvé des clients qui sont... La plupart des clients que j'ai aujourd'hui sont venus à moi. C'est pas moi qui suis allée les chercher. Parce que, effectivement, on m'a recommandé dans le réseau de la cosmétique, qui est un monde assez petit finalement, donc tout le monde se connaît. Donc, ce sont des gens qu'on m'a envoyés parce que, souvent, mes partenaires laboratoires, qui eux ne sont pas des marketeurs, qui n'ont pas cette, justement, accompagnement 360, puisqu'ils se retrouvent justement face à nombreuses marques, ils disent « Ah, je veux développer une formule de soins, machin ». Et alors, on leur demande « Est-ce que vous avez un projet à nous présenter pour nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ?» Et puis souvent, « Bah non, moi, c'est juste que j'aimerais faire cette formule ». Et là, hop, ils me les renvoient pour me dire bah, « Passez d'abord sur la phase de création de la marque, de votre projet, de votre business plan. Et ensuite, on pourra évidemment vous accompagner sur la formulation ». Mais généralement, même les laboratoires, ils ont beaucoup de demandes. Et si le projet est un peu est pas encore bien construit et stable, généralement, ils me les renvoient. Et c'est comme ça, par le réseau, que j'ai eu mes premiers clients. Voilà.
Ouais, donc, c'est le réseau qui est vraiment...
Principalement, c'est le réseau aujourd'hui, ouais. Après, on est en B2B. Donc, le B2B, c'est pas... On n'a pas la, voilà, on va pas communiquer comme en B2C, puisqu'on est sur des clients professionnels, on n'est pas sur du consommateur final. Mais oui, voilà.
Très bien, bah merci beaucoup. Est-ce que tu as justement un exemple d'une marque de cosmétique, un peu une étude de cas qui pour toi, selon toi, a parfaitement réussi son lancement, que tu trouves vraiment l'identité de marque, l'histoire très bien faite ainsi que le produit?
Oui, alors j'en ai cité une la dernière fois dans un autre podcast d'ailleurs, c'est la marque Horace que j'ai trouvé, ça a été l'un des lancements qui m'a le plus touchée cette année, c'était même il y a 2-3 ans je crois, parce que donc la marque Horace qui est une marque pour les hommes. Parce que je trouve que justement il y a eu de la part du fondateur une vraie construction derrière d'une mission de rendre justement accessible le soin masculin à tout type d'homme et pas que si on est métrosexuel, si voilà on aime le côté féminin, non, vraiment pour tout type d'homme. Donc le gros barbu, le petit rasé, enfin tout, qu'on soit de tout type ethnique, tout âge, tout milieu social, tout, bref, on a cette possibilité d'avoir comme les femmes de prendre soin de soi, mais avec quand même une approche qui reste masculine, virile, authentique, voilà. Et je trouve que dans l'exécution, ça, du coup, ça répond très bien. Sur les codes couleurs, sur les choix des matériaux, sur les parfums qu'ils ont choisis pour leur formule, qui sont des parfums naturels, mais assez masculins, mais assez subtils finalement. Donc on reste dans quelque chose de qui répond vraiment en fait à leur mission de marque. Et je trouve que toute l'exécution, elle est très très bien réussie par rapport à ce qui a été créé en amont. Et moi, j'ai converti du coup mon conjoint à Horace, et il adore cette marque, alors que c'est pas du tout normalement quelqu'un qui est dans ce genre de pratique, quoi. Hein. Il n'est pas, c'est vraiment l'homme. Alpha.
Alpha qui met minimum, enfin qui achète en
gros. Voilà, et puis une fois par an, un déodorant et un dentifrice, oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Ouais, leur campagne, exactement, dans le métro et tout, était très bien faite en plus. Donc,
on la retenait très bien. C'est sûr que c'était quelque chose qui pouvait même choquer parfois sur les campagnes qu'on a vues dans le métro. Parce qu'il y avait des images, des gros crops, des gros zooms sur la barbe, sur le tatouage, avec les selles pas très loin. Enfin, donc c'était quand même des images assez. Mais voilà, ils ont voulu jouer sur l'authenticité de l'homme, comme on peut voir dans les vestiaires de chez les rugbyman. Hein, on n'est pas dans la dentelle. Voilà, donc on s'est retrouvé dans cet univers de testostérone assez avec leur campagne, et finalement ils ont réussi puisque. Ils ont réussi à toucher, je pense, l'homme classique généraliste.
Donc ils ont vraiment bien travaillé le branding.
Ouais, le branding. Et je pense qu'au-delà du branding, c'est vraiment qu'ils ont ils ont identifié une mission pour eux de faire cet accès aux soins à l'homme, mais à l'homme de tous les jours qui n'avait pas aujourd'hui une offre pour lui qui lui correspondait.
Ben, merci beaucoup Léa. Ben, je vais te poser les dernières questions que je pose dans chaque interview. C'est quoi tes prochains défis pour l'année 2022 ?
Alors mes prochains défis pour 2022, donc 2022 comme c'est une année qui est déjà entamée, si tu veux que je t'explique un petit peu. Alors déjà on est devenu organisme de formation, donc parce que j'avais énormément de demandes de petits porteurs de projets qui n'avaient pas beaucoup de budget, donc on a décidé de se mettre organisme de formation pour pouvoir accompagner ces porteurs via leur CPF. Donc ça c'est un des projets. En parallèle de l'accompagnement de plus grosses entreprises, c'est l'accompagnement donc de ces petits porteurs de projets. Et sur cette même vague, en fait, on a créé un outil de e-learning qui permet d'avoir les premières étapes à la création d'une marque cosmétique tout en ligne, donc en toute autonomie. Donc ça, c'est aussi dans cette même vague de permettre de répondre à cette demande qui ont souvent ces petits problèmes budgétaires. Et en partenariat, en parallèle, tous les partenariats dont je t'ai parlé, qu'on a développé depuis début 2022, ça c'est ce qu'on a fait. Donc Cosmetic Valley, Kiss Bang Bang.
Depuis
le début de l'année 2022.
Déjà pas mal, on a beaucoup de choses en 4 mois.
Oui. Bon après c'est vrai que début de l'année c'était assez intense, mais on a encore beaucoup de choses pour les mois à venir qui sont en cours. Donc là on a recruté une nouvelle personne qui va s'occuper notamment du marketing digital. On est dans les mois à venir sur un objectif de digitaliser les services via un outil de SaaS, donc Software as a Service, pour rendre nos 3 étapes qui soient accessibles en totalité sur du e-learning, pour la partie création, la partie formulation et la partie lancement de marque cosmétique. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de création. Également, on a pour projet de distribuer les marques qu'on accompagne sur notre site internet pour leur permettre d'avoir un relais de distribution. Et également, je suis en train de travailler sur potentiellement le projet de m'associer avec une autre personne justement pour la création de la marque cosmétique. Donc ça c'est le projet. Et j'ai un autre projet qui est un peu confidentiel dont je peux pas parler, mais que je révélerai au moment opportun si à ceux qui sont intéressés de me suivre.
D'accord, bah on suivra ça, on regardera quel est le projet secret, mais en tout cas il y a pas mal de choses effectivement d'ici la fin de l'année sur lesquelles
ouais.
Tu as de beaux et grands projets qui arrivent, donc ça fait pas mal de boulot.
Oui,
déjà.
Tout à fait, ouais.
Quel est ton conseil que tu donnerais à une femme justement qui se lance dans l'entrepreneuriat ?
Alors, une femme ou un homme, moi je fais pas la différence. Alors c'est vrai que bon, par rapport au podcast, on est sur quelque chose qui est féminin.
L'entrepreneuriat
donc
féminin.
Effectivement, on oui. est sur des questions. Moi, je pense que ce soit femme ou que ce soit homme, on a les mêmes problématiques. C'est vrai que pour les femmes, il faut peut-être avoir de la poigne et montrer qu'on est motivé, qu'on a beaucoup de volonté. Mais au final, aujourd'hui, j'ai toute confiance en les femmes pour savoir porter leur projet au monde. Et là-dessus, je pense que mes conseils, ce serait... évidemment, on est sur l'entrepreneuriat, c'est toujours un challenge, hein. C'est aussi excitant que ça peut être challengeant. Donc je pense qu'il faut s'armer de courage, il faut jamais laisser tomber son projet entrepreneurial. Et si on a, je pense, j'en reviens toujours à cette mission de vie, mais si on a cette mission en nous, si c'est écrit hein, dans notre ADN, qu'il faut qu'on se lance parce qu'on a quelque chose à apporter au monde, quoi qu'il arrive, même les échecs, même tout type d'expériences qui peuvent être déstabilisantes, elles font partie du chemin de la réussite. Donc ne jamais baisser les bras et se dire que c'est le propre de l'expérience entrepreneuriale que d'essuyer les échecs et de devoir donner un coup de collier alors qu'on est crevé au bout de sa fatigue et qu'on a vraiment plus de force et d'énergie. C'est de toujours garder cet optimisme profond de se dire que que c'était écrit, quoi, et que si on le sent dans nos tripes, je pense que la femme là-dessus, c'est sa force, c'est son côté intuitif. Et généralement, on le sait si on est sur le bon chemin. Quand on est une femme, on est plus connecté, je pense, à nos intuitions et à notre puissance de femme intérieure. Donc, si on sent qu'on est sur la bonne voie, généralement, c'est qu'on est sur la bonne voie.
C'est bon. Il faut y aller, il faut continuer. Voilà,
tout à fait.
Ne pas douter. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire ?
Alors moi, j'ai une femme qui m'a beaucoup inspirée ces dernières années, que j'ai contactée notamment parce qu'elle est pour moi un exemple de femme entrepreneur. C'est Sarina Lavagne, qui est la fondatrice de la box beauté Prescription Lab. Alors je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est une box beauté qui est très très maintenant très connue, qui propose des produits plutôt naturels, qui sont toujours très bien sélectionnés, avec toute une...
Oui, plutôt haut de gamme.
Il y a un petit livret à l'intérieur avec des portraits de femmes, justement, donc d'entrepreneurs. Donc, il y a vraiment cet engagement aussi de la part de la box de mettre en avant, enfin de sororité, de mettre la femme... active, engagée, sur tous les fronts, la working mom aussi, en avant. Et cette femme, donc Sarina Lavagne, je l'ai rencontrée parce que j'ai créé, moi, les produits maquillage de la marque Prescription Lab, donc pour la box, donc on travaillait ensemble avec Sarina il y a 5 ans à peu près. Et en fait, j'ai tout de suite accroché sur sa personnalité, qui est une femme lumineuse, solaire, qui a tout mené de front, toute seule, à 40 ans, elle a fait un enfant, elle a créé sa marque Prescription Lab, et elle a connu le succès qu'on lui connaît, toujours dans cette bienveillance et cette générosité qu'elle a en termes de personnalité, que je trouve formidable. Et voilà, avec tout cet engagement qu'elle a sur ses projets et qui transpire quand on va voir sa marque. Je trouve que ça transpire, et quand on rencontre la personne, on se rend compte à quel point c'est une femme inspirante et authentique. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez elle, c'est qu'elle est dans une démarche 100% authentique, et je pense que c'est ce monde-là qu'il faut qu'on souhaite à toutes les femmes et à nos filles, en tout cas.
D'accord, merci. Moi, j'irai regarder de plus près. En tout cas, je connaissais le Prescription Lab, mais je ne savais pas qui était derrière, donc je regarderai plus. Est-ce que tu as une maxime, un proverbe qui t'accompagne ?
Alors oui, j'ai une maxime qui m'accompagne de par mon père, qui était architecte, qui était le beau rend heureux. Et c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie, parce que le beau rend heureux, moi j'en suis fondamentalement convaincue, c'est que déjà si on crée les bases d'une vie avec de la beauté autour de soi, eh ben, ça donne les bases du bonheur. Et c'est pour ça que ça a été un peu un moteur pour m'orienter donc dans ma carrière et mon métier aujourd'hui. La création du beau, de toutes ses formes. Alors, j'aime évidemment les cosmétiques, mais j'aime pas que les cosmétiques. J'adore la décoration d'intérieur. Bon, c'est lié aussi à l'architecture. Les arts en général, le design, voilà, tout ce qui est la mode, tout ce qui est faire la cuisine, mais faire une cuisine qui soit esthétique. Voilà, tout ce qui est lié à la beauté. Pour moi, je pense... C'est ce qui va porter le monde vers le bonheur. En tout cas, ce sont les bases pour moi de la création du bonheur. Donc voilà ma maxime qui a été moteur dans ma vie, en tout cas ma carrière professionnelle et pas que, personnelle également.
D'accord. Le beau rend heureux.
Voilà.
Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire que tu recommandes souvent ?
Alors oui, j'ai un livre en particulier que je recommande souvent. Donc ce qui est assez drôle, c'est que ça fait vraiment écho à toute la discussion qu'on vient d'avoir. C'est Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un livre d'une analyste, mais aussi conteuse en fait. Elle ne parle pas directement de l'entrepreneuriat, mais elle parle de la puissance de la femme. Comment la femme retrouve son instinct naturel, être à la fois créatrice et sauvage comme les loups, en fait. Et en fait, elle utilise les mythes, les histoires, les contes du monde entier pour illustrer ses propos. Donc c'est vraiment retrouver sa puissance de femme, son instinct de femme, et comment se connecter à son centre pour pouvoir créer. Et souvent on voit les contes, les mythes qui font l'histoire du monde. On voit qu'en fait, à travers ces mythes, on a toujours la sorcière, on a toujours le gentil personnage, le gentil et le méchant, par exemple. Mais en fait, c'est une allégorie de ses propres peurs, de ses propres joies. En fait, la femme, elle est pleine de contradictions. Et en fait, quand on lit ces contes et qu'on fait le rapprochement avec notre personnalité en tant que femme, notre instinct féminin, on se rend compte à quel point c'est nos combats intérieurs, c'est arriver à écouter sa petite voix tout en enlevant toutes la structure de l'ego qui va venir nous empêcher de voir notre vérité propre. Voilà, c'est vraiment c'est un livre qui, pour nous reconnecter à notre centre, à notre puissance de femme, que je trouve extrêmement fort et que je conseillerais vraiment à tout le monde. Moi, c'est mon livre de chevet. Dès que j'ai un petit coup de mou, que je perds espoir, confiance, je lis un passage de ce livre et ça me redonne une confiance vraiment surhumaine. C'est vraiment la puissance de la femme qu'elle met en avant, et là-dessus, c'est vraiment un livre pour moi référence, en tout cas.
Merci, parce que effectivement, je vais le lire, parce que je l'ai depuis un moment. Et je l'ai
absolument le lire. C'est vraiment quelque chose, c'est un incontournable.
Je te parle, je le vois d'ici là-bas sur mon étagère. Il va falloir que je le lise.
Voilà. Non, je te le conseille vraiment.
Donc je vais le faire.
Ah oui, c'est un livre, tu vas le dévorer, tu vas voir. Alors il y a peut-être au début, il faut un peu se rentrer dedans, mais une fois que tu es dedans, moi je trouve ce livre, c'est devenu ma référence, en tout cas.
Merci beaucoup Léa. Si on veut t'écrire, ça se passe où?
Alors bon, pour m'écrire, on peut aller sur mon site internet, hein, donc j'ai une page de contact, donc je pose, si c'est pour m'écrire dans un cadre donc de lancement de marque, je pose des petites questions pour un petit peu calibrer le projet, mais après sinon voilà, ils peuvent toujours m'écrire quoi qu'il arrive sur cette page là contact de mon site internet, donc c'est www.beautyplanner, donc beauty comme beauté en anglais, planner avec deux N. Donc PLA2NER.fr.
D'accord. Ou sinon, si c'est dans un autre cadre, pour rentrer en contact avec toi.
Oui, éventuellement sur LinkedIn, tout à fait.
Pas mal dessus.
Tout à fait.
Bah, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin.
Merci Fatima. Bah, écoutez, le mot de la fin, je voudrais vous dire que c'est d'entreprendre si vous avez ça en vous et que vous pensez que vous n'osez pas, bah, lancez-vous. C'est une expérience qui est passionnante, mais tout aussi challengeante qu'elle est passionnante. C'est une expérience qui va vous mettre à nu parce que vous êtes seul face au monde, vous, vos buts, vos possibilités face au monde. Et justement, ensuite, il s'agit d'aller chercher au fond de vous pour créer votre propre vision du monde. Et c'est là où c'est passionnant, c'est que vous vous retrouvez démunis, seul, nu, face à tout ce qu'il y a dans ce monde, mais vous vous retrouvez avec votre puissance de femme et dans la création totale. Donc c'est ce qui est le plus passionnant, je pense, et ce serait dommage de louper l'opportunité de pouvoir vivre ça. Donc voilà, moi j'aide en tout cas ces entrepreneurs à structurer cette mission de vie et à la mettre en musique, mais tout le travail démarre en vous, et ça je vous accompagne, je vous tiens la main pour en tout cas pour le mettre en musique et le réaliser de la meilleure manière qui soit. Voilà.
Très bien, bah merci beaucoup et merci encore pour ce témoignage.
Merci à toi Fatima de m'avoir reçu. Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes encore là ? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes, et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous !